Alors, nous sommes le 19 janvier 2007. Ici Bernard Bockel et je suis en compagnie de Pierre Laroche et de Carmen Laroche à Saint-Boniface. Alors, on va commencer l'entrevue, si vous voulez bien, Monsieur Laroche, avec vos souvenirs d'enfance sur la ferme paternelle entre Saint-Pierre et Otterburn.
Oh. Eh bien, si je me rappelle, on se rappelle jusqu'à l'âge de... quand on avait 4 ans, 5 ans, c'était des années dépressives, des années de dépression en 1934. Nous étions une grosse famille sur une ferme. Et à ce temps-là, tout était pauvre, hein, tout le monde était pauvre, mais on vivait bien quand même parce qu'on avait quelque chose à manger. Quand tu es fermier, tu as des animaux, tu as des légumes, tout ça. C'était des années bien tranquilles.
Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu la ferme? Qu'est-ce qu'il y avait comme bâtiment?
Ah oui, c'était une maison à l'orgue, naturellement, avec quelques ajouts. Ensuite, une grande... Dans ce temps-là, les granges étaient beaucoup plus grandes que les maisons, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas de voiture dans ce temps-là, pas de tracteur. Alors, il fallait toujours garder 10 à 12 chevaux qui prenaient beaucoup de place dans l'étable. Ensuite, il y avait toujours le troupeau laitier qu'on gardait pour faire du lait à fromage. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de quota qu'on emmenait ça dans les grosses manufactures. Ça fait que on avait des fromageries locales et on emmenait le lait là. Avec ce lait-là, ils faisaient du fromage. Puis nous, on ramenait toujours ce qu'on appelait du petit lait, là. C'était le lait écrémé. On ramenait ça pour nos cochons, parce que sur la ferme, on avait des animaux à lait. On avait quelques bêtes aussi pour la viande. On avait des cochons, on avait des poules. On avait un peu de dinde, de canard, on avait un peu de tout, là, dans ce temps-là. Il fallait ça pour la subsistance des familles.
Quelle race de poules?
On avait des Leghorn. Ensuite, il y avait les grises, là, je ne me rappelle plus. On avait les rouges aussi, mais c'était surtout des Leghorn, parce que plus tard, mais les premières années, on avait un peu le mélange, parce qu'on faisait couver les poules. Hein. Mais ensuite, plus tard, mon père avait bâti un grand poulailler à 2 étages, puis là, c'était des Leghorn, puis là, c'était des... On ramassait beaucoup de deux, puis même, on venait d'en vendre ici en ville, hein. Dans les gros restaurants, ici, on avait chacun, il avait ses places pour vendre ses œufs à ce temps-là.
Alors, les dindes et les canards, c'était pour quoi?
Non, c'était pour la cuisson. On n'en avait pas beaucoup, parce que nous, chez nous, on demeurait près d'une rivière, puis avec des canards et des oies, on avait juste quelques-uns. C'était aussi pour, je pense, que la cuisson, puis c'était pour la graisse de ces oies-là, pour ça que ma mère a mélangé pour les... Ah oui, il y avait les plumes aussi qu'on gardait pour faire des...
Oui. Des oreillers?
Oui, faire des oreillers, puis des édredons, toutes ces choses-là. Là.
Alors, il y avait combien, donc vous disiez qu'il y avait une dizaine de chevaux, qu'est-ce que vous donniez à manger aux chevaux?
Ah ben ça, on faisait du foin l'été, puis on avait toujours du grain, hein, parce que c'était une ferme... On avait assez grand. Presque toute la ferme était ouverte, hein, était défrichée. Alors, on avait beaucoup. On semait beaucoup de grains. Ensuite, on faisait aussi du foin. Hein. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de luzerne. Dans ce temps-là, on faisait du trèfle aussi. Il y avait du trèfle. Comment ça s'appelle ça, là? Le grand trèfle, on avait du trèfle al sec aussi, qui remplaçait un peu la luzerne qu'on a eue après ça.
Du trèfle comment? Alsique?
C'est un trèfle qui vient pas trop haut, mais il est très fourni, puis qui est très bon aussi. Bon, il y a des fleurs mauves, parce que c'était du bon fourrage pour les animaux.
Et vous en avez jamais manqué de fourrage?
Ah ben non, ben ensuite, quand ils battaient au moulin, on avait de la paille aussi, des melons de paille. Ils ont mélangé la paille avec le foin, et ainsi de suite. Bon, il y a des années que ça arrivait de court un peu, puis il y avait toujours des voisins qui en manquaient, puis ils venaient enquêter un peu.
Est-ce qu'il y avait de la moulée aussi?
Ah oui, mais avec le grain, on faisait de la bouillie, on cassait le grain pour faire de la bouillie pour les cochons, puis pour les poules, puis pour les animaux aussi, pour les vaches. Puis les...
Alors, de quel grain on parle?
On parle de l'avoine surtout. De l'avoine pour les chevaux. Pour les chevaux, le grain n'était pas cassé. Les chevaux mangeaient de l'avoine naturelle. Tandis que pour les vaches, les cochons et les poules, là, c'était un mélange. Puis bien, avec les poules, on mettait un peu de blé aussi, puis de l'orge. Les cochons, c'était de l'avoine et de l'orge. C'était différent pour les poules et les cochons.
Et puis, vous semiez suffisamment de blé et d'orge pour être autonome?
Ah ben oui, ah oui ben on en vendait aussi. Hein, c'était une manière de subsister. Hein. Ah oui, on avait assez pour en vendre. Puis, ouais.
Quelle race de chevaux?
Oh, c'était un mélange. Il y avait du percheron, il y avait un peu de ça, on appelait ça du canadien, là, des chevaux canadiens. Oh, c'était un mélange. C'était un percheron, il y avait du Clyde aussi. Ouais. C'était des. Parce que ça prenait toujours 2 sets pour travailler, ce qui fait 8 chevaux. Puis ensuite, mais il y avait toujours un cheval ou deux pour le boguer, hein, pour faire les commissions, ben on va aller se promener, et ainsi de suite. Il y avait toujours une dizaine de chevaux. Puis des fois, on avait des poulains aussi, parce qu'il y avait toujours. Il y avait toujours un monsieur qui venait avec son étalon à tous les ans, là. Puis il y avait toujours des juments pour pouliner, hein. Il y avait toujours 3 ou 4 pour avoir des chevaux pour remplacer ensuite.
Et au niveau des vaches, combien il y en avait de vaches et quelle race?
Les vaches, c'était les Holstein. Les Holstein, mais là encore, il y avait un peu de mélange aussi. Parce que c'était pas. Dans, c'était aussi pour avoir du lait plus riche en gras. Alors, parfois, on mélangeait avec du Hereford ou du Jersey. Ou, encore là, il y avait du mélange un peu. Ça, on avait toujours alentour d'une vingtaine, juste pour le besoin de la maison. Puis, ensuite, pour faire un peu d'argent l'été aussi. Parce que les vaches, dans ce temps-là, on ne les travaillait pas l'hiver, c'était juste l'été. Ouais, c'était différent à ce temps-là, parce que les étables n'étaient pas chaudes. C'est vrai que les vaches, ouais, au début, quand ils donnaient leur veau, au printemps, ça allait jusqu'à l'automne. Ensuite, mais on appelait ça la saison sèche. On en gardait toujours quelques-unes quand même pour... Ben, les autres, ceux qu'on gardait pour le lait pour l'hiver, mais ils étaient soignés un peu plus fort. Ça fait qu'ils continuaient à donner du lait. Ben, c'était ça, parce qu'on avait besoin de ça pour... Parce qu'on faisait notre beurre aussi, hein. On avait des écrémeuses, puis on faisait avec la crème, on faisait notre beurre.
Ouais. Donc, au niveau de l'équipement, qu'est-ce qu'il y avait comme équipement? Donc, il y avait les crémeuses. Qu'est-ce qui vous passe par la tête encore?
Ben, il y avait les outils aratoires. Mais c'était quelque chose de bien commun dans ce temps-là. C'était les faucheuses, les semeuses, les râteaux pour ramasser le foin. Ensuite, il y avait les herses, il y avait les cultivateurs, mais c'était tous les gréments pour les chevaux. Ensuite, il y avait la moissonneuse lieuse aussi. Ensuite, ah oui, mais ça, c'était... Moi, je me rappelle que les premières années, parce que plus tard, mon père, il a acheté un moulin à battre, parce qu'il y avait assez de garçons pour s'en occuper, puis il y avait les chevaux pour. Mais avant que mon père achète ce moulin à battre, c'était une maison qui avait un engestime avec un gros moulin à battre, puis il faisait le tour de tous les fermiers, puis parfois, il battait au moulin tout l'hiver, parce que quand on ramassait les bottines, là, on mettait ça en melon. Ça fait que les melons, le grain, ils se gardaient tout l'hiver comme ça. Hein. Ça fait que chacun, il attendait son tour pour que la machine vienne chez elle. Puis ensuite, en battant les bottines, le grain, mais il y avait de la paille aussi, puis il y avait le grain.
Quand est-ce que le premier tracteur est arrivé?
Ben, les premiers tracteurs, je pense, dans les 30, je pense. Et moi, je me rappelle le premier qu'on a eu chez nous, j'avais 5 ans, c'était en 35. Mais il y en a d'autres qui n'avaient eu un peu plus vite, je pense que dans les années 30, ça a commencé par chez nous. Oui.
Est-ce que vous vous souvenez du modèle?
Oui, c'est un Massé Arus, à crampons. C'était très rude se promener là-dedans. Surtout quand, parce que chez nous, c'était du gumbo, hein. Quand le gumbo était dur, là, oui, on se faisait brasser. Ensuite, mon père, il n'a pas aimé ça tellement, il y a eu quelques années. Ensuite, il a changé pour un autre Massé Arus avec caoutchouc, avec du rubber. Oui, puis là, c'était plus calme.
Bien des années après?
Non, je pense que 3 ou 4 années après. Ouais. Parce qu'il trouvait ça, parce qu'il allait assez loin aussi, parce que notre terre, elle faisait quoi, 1,5 mètres de long. Fait que se promener en crampon, là, c'est pas ce qui va être plus facile.
Est-ce que le tracteur, jusqu'à quel point est-ce que le tracteur a remplacé les chevaux?
Ben, les premiers temps, parce qu'on avait assez grand terrain quand même, le tracteur ne suffisait pas. Fait que pour le travail le plus lourd, il servait du tracteur. Mais les chevaux, ils travaillaient aussi. Les chevaux, ils s'en servaient pour ensemencer, pour hercer, puis même pour cultiver. Le tracteur, c'était surtout pour le labour, tout ça. Ben quoi, puis il s'en servait aussi pour ensemencer, tout ça. Je pense que c'était surtout pour les plus gros travaux. Puis ensuite, ben, après un tracteur, mais il y a eu un deuxième, puis là, ben, à mesure qu'on avait plus d'acteurs, mais là, les chevaux diminuaient. Là. Mais quoi qu'on. Chez nous, on a gardé les chevaux assez longtemps parce que ça nous en prenait beaucoup pour battre au moulin. Hein. Ça nous prenait 4 paires de chevaux. Ça prenait 8 chevaux quand même. Ouais.
Est-ce que vous avez connu le moment où il n'y a plus de chevaux du tout?
Ah ben oui, ça c'est arrivé, hein. Ben quoi que chaque fermier, il en gardait toujours quand même, hein, pour le plaisir, parce qu'il était habitué. Moi, je dirais que c'est surtout en 1955-60, ouais.
Si tard que ça, quand même?
Ah oui, parce qu'il y en a toujours qui en gardaient, hein, parce que... Ensuite, oui, mais il y avait surtout, ils en gardaient aussi pour l'hiver, parce que dans ce temps-là, on chauffait encore au bois, tout ça, puis ça prenait les chevaux pour aller dans le bois l'hiver chercher du bois de chauffage, et ainsi de suite. Ensuite, mais là, ils ont fait, la plupart, ils ont eu des maisons neuves, ensuite, ils ont commencé à chauffer à l'huile, au charbon. Ouais, au charbon, ensuite, à l'huile.
Est-ce que vous vous souvenez du moment où l'électricité est arrivée sur la ferme paternelle?
Oui. C'est en 43. Oui, mais il y en a qui l'avaient avant nous. Nous, ça a pris plus de temps, parce que ça dépendait. Quand ils amenaient ça dans un rang, là, comme nous, on avait le chemin de la rivière Ouara, là, ça a pris un peu plus de temps. On a été... Ensuite, mais quand ça commençait à venir là, mais tout le monde le prenait. Ça, c'était en 43, oui.
Qu'est-ce qui a changé quand l'électricité est arrivée?
Ah, ben ça a changé. On voyait clair quand on faisait le train. On voyait clair un peu partout. On avait une lumière de cour. Ça a changé pour nous autres les plus jeunes, parce qu'on pouvait s'amuser un peu plus le soir, tard, parce qu'on travaillait tellement dans le jour qu'on n'avait pas le temps de... Puis avec la lumière de la cour, ben, on pouvait jouer à des jeux. Ensuite, c'est les commodités que ça prenait. Hein. Je veux dire, comme le... Avec un frigidaire, un réfrigérateur, des commodités. Ensuite, c'est pour les bâtiments aussi. Hein. Ensuite, il y en a qui sont achetés des trailleuses, ceux qui avaient plus de...
Est-ce qu'il y a eu une trailleuse chez votre père ou il n'y avait pas assez de lait, tout simplement?
Non, non. Nous, c'était toujours à la main parce qu'on avait beaucoup de... on était beaucoup d'enfants, on était 9 chez nous. Fait que c'était tout très à la main. C'est mon frère, quand il a pris... Plus tard, lui a eu une trailleuse, hein, parce qu'il était seul. Tout le monde était parti dans ce temps-là. Ouais. Mais chez nous, quand on était 7-8, là, on faisait la traite de 2-3 vaches chacun, ça fait que ça faisait...
Ouais. Est-ce que les vaches avaient des noms?
Ouais, quelques-unes, pas tous. Quelques-unes qui étaient plus habituées avec. Il y en a qui ont resté plus longtemps. Je m'en rappelle, une année, il y avait eu la maladie de... Comment est-ce qu'il appelait ça encore? On avait perdu toutes nos vaches, excepté une.
La tuberculose?
C'est ça, c'est ça. Oui, on a été obligé de se débarrasser de toutes nos vaches, excepté une grande noire. Ouais. Ben, on l'avait appelée la noire, naturellement. Puis on était contents parce que c'était une des meilleures, puis elle nous donnait du bon lait. Puis... En somme, mais, a fallu désinfecter toutes les tables, puis c'était tout un tralala. Hein. Tout repeindre, tout reblanchir, puis désinfecter. Puis ensuite, l'année d'après, ben, on a racheté d'autres.
Qui a pris conscience qu'il y avait la tuberculose?
Ah, ben, c'est les agronomes, les gens du gouvernement.
Par le test du lait?
Le vétérinaire, oui. Ben oui, c'est parce qu'on vendait du lait quand même. Hein. Ça fait que c'est par le test du lait qu'ils ont vu ça. Puis on n'était pas les seuls. Hein. Presque tout le monde a été touché par ça.
En quelle année, vous vous souvenez?
Oh, Seigneur. Les années 40, 40 quelques. Puis l'année, c'est une année où deux ans après, ça a été la même chose avec les cochons. Oui, je m'en rappelle parce que mon père, il pleurait comme... On avait à peu près une quarantaine de cochons qui étaient prêts à aller sur le marché. Encore là, il y a une autre maladie qui s'est déclarée. On était obligé de tout tuer ces cochons-là. Je me rappelle mes frères, les plus vieux, parce que moi j'étais plus jeune. Ils étaient obligés de charger ça dans des chariots, là, emmener ça près du bois, là, loin de la maison, puis tout mettre, faire un tas, là, puis brûler toutes ces... Et ça, c'était quelque chose de grave, ça.
Et puis, c'était quelle maladie pour les porcs?
Ça, je ne me rappelle pas. Ça, c'était quelques années après. J'étais trop jeune, ça, je ne me rappelle pas. Juste que...
Mais c'était quand même assez rare.
Ah oui, c'était la première fois que ça arrivait. Puis encore là, on n'était pas les seuls. Hein. Non, non, puis c'est... Ils n'ont pas été dédommagés pour ça. Hein. Ils n'ont pas été... C'est ça qui était triste, parce que quand tu amènes un porc à ce point-là, à le point de vente, tu n'as rien pour. Hein. Fait que, il y avait bien de l'argent qui a été dépensé pour élever ces porcs-là. Puis,
ouais. Est-ce que vous vous souvenez un peu des prix des animaux, ou est-ce que vous étiez trop jeune?
Non, je ne me rappelle pas. C'était pas cher, en tout cas. Ben, je m'en rappelle. Je sais que mon père il parlait qu'il avait été avec le plus vieux de mes frères. Il était venu, c'était l'hiver, il était venu en scellé, là, avec une paire de chevaux, avec deux vaches. Puis il était venu aux abattoirs ici, à Saint-Boniface. Puis je pense que les deux vaches, ça, il avait rapporté 12 pièces. Ouais, c'était ça que je me rappelle un peu, mais les prix, là, non, non, ça fait trop longtemps. Puis...
On a parlé des noms, peut-être, pour les vaches. Est-ce qu'il y avait des noms pour les chevaux?
Ah, ben oui. Ah, les chevaux, il y avait toujours un nom, parce que les chevaux, il faut que tu leur parles. Hein? Ah oui. Puis ce qui est comique dans ce temps-là, c'est... Tout le monde, ils appelaient leurs chevaux avec des noms anglais. Parce que le monde, les Canadiens français, ils n'aimaient pas les anglais. Hein? Ça fait que là, c'était une manière de se revenger, là, quand ils étaient obligés de servir du fouet pour leurs chevaux. Oui, c'était tous des King, des Bill, des Sam, des... Ouais. Tout le monde était... C'était une manière de fouetter un peu les Anglais. T'sais.
Si on vient à la qualité de la terre, quelle était la qualité de la terre et puis est-ce que ça avait une influence sur ce qui était cultivé?
Absolument. Donc, sur la ferme de mon père, c'était une très bonne terre. On pouvait produire n'importe quoi. C'était un peu, c'était le genre gumbo, mais c'était une bonne terre. Tu pouvais produire presque tout là-dessus. Nous autres, on allait, même on avait fait de la betterave à sucre aussi. Tout poussait là-dessus. tout est possible, c'est, ça prenait ça pour subsister.
Alors, la betterave à sucre, c'était un essai ou bien...
Oui, c'était un essai qui a duré, comme nous, ça a duré peut-être 30 ans. Mais nous, on l'a fait pendant les premières années, 13 ans de temps. Ensuite, on a arrêté parce que ça... C'était pas si... ça prenait... Dans ce temps-là, ça, tout se faisait à la main, hein? Tout se faisait à la main. Puis, on a déjà eu jusqu'à 65 employés là, dans le même temps, juste pour sortir ces betteraves-là, les couper les queues, puis charger ça dans les camions. Puis, c'était pas si onéreux que ça. Fait, puis, ensuite, les vieux garçons, ils ont parti. Ça fait que mon père, il y avait moins de main-d'œuvre. Alors, il est obligé d'abandonner. Mais ensuite, il y en a plusieurs qui ont continué. Mais là, il y a eu des machineries, là. Là, ils ont eu des machineries qui prenaient moins de main-d'œuvre. Ouais. Parce que dans ça-là, on cerclait ça comme un jardin. Hein. Ouais. Puis il y en a plusieurs qui ont. Ils ont fait de l'argent, ça dépendait des années. Ensuite, ça marchait à genre avec des quotas. Ensuite, c'est un peu la même chose. Ils ont commencé à couper les quotas. Chez nous, je pense qu'il y en a juste deux qui ont continué. Jusqu'en dernier, puis là, ça fait déjà plusieurs années. Ensuite, ils ont arrêté complètement. C'est tout allé aux États-Unis, ça. Ouais. Ici, on n'a plus de droit, parce qu'il y avait le district de Saint-Jean-Baptiste, l'hôtelier, qui en faisait beaucoup. Puis ils ont tout abandonné, ça. Fait qu'au Manitoba, on n'a plus de betterave à sucre. Ah oui, on a eu aussi les pois verts. Ah oui, ça, on avait une industrie de pois verts, ça. Ça aussi, ça a bien marché. C'était un essai. Il y a des années que les fermiers faisaient de l'argent, mais l'autre, on avait des machines pour battre les pois. Puis ensuite, avec les vignes des pois, on entassait ça. Ça faisait du fourrage aussi pour les animaux. Ça fait que chaque fermier, il avait le droit à un carreau de ce melon de vigne-là. Puis il a coupé ça avec des tranches, il amenait ça aux animaux, c'était très bon aussi. C'était un peu comme la betterave à sucre, on avait la queue de la betterave à sucre, on mettait en tas. Puis on soignait ça aussi aux animaux. Mais ça, encore là, ça a été des essais qui ont duré, comme les pois verts, ça a duré plusieurs années aussi. Mais ensuite, les fermiers n'en voulaient plus, parce que c'était quelque chose d'assez risqué, dépendant des années aussi. C'était pas comme produire du grain ou du foin, hein. C'était plus risqué.
Alors, qui poussait les fermiers à adopter ce genre de culture spécialisée?
Alors, c'était la compagnie de pois verts, là. Je ne me rappelle plus laquelle, ouais, qui donnait des contrats de 5 à... Ou, c'était pas des gros morceaux, hein, parce que les pois verts, c'était 5 acres, 10 acres. Chacun avait le droit à prendre un genre de contrat, là, pour pousser ça. Mais il y en a gros qui abandonnaient tout de suite, il y en a qui n'aimaient pas ça, des fermiers. Ensuite, mais vu qu'il y en avait moins de fermiers qui étaient intéressés, mais la compagnie a décidé de... Mais c'était pas juste par chez nous, il y avait aussi... À Saint-Malo, près de Saint-Malo, la Rochelle de Saint-Malo. Il y avait aussi la Rivière Rouge, là, Saint-Adolphe. Il y avait un autre.
On a parlé tout à l'heure de la fromagerie. Est-ce que vous pouvez parler de quelle fromagerie est-ce qu'il s'agit et quels étaient les rapports avec la fromagerie?
Mais les fromageries, dans ce temps-là, il y avait des fromageries dans chaque village. Nous, on avait une à Taburn, on avait une à Saint-Pierre, on avait à Saint-Malo, il y avait des fromageries dans chaque village à ce temps-là. Puis ça, c'était des choses communautaires, je pense. C'est quelque chose qui appartenait à ceux qui produisaient le lait. Il y avait un fromagier, naturellement, avec un ou deux manœuvres pour lui aider. C'est tout ce que je me rappelle de ça. Là.
Et donc, est-ce que votre père avait un contrat de lait?
Oui, après ça, quand les fromageries ont arrêté... Non, bien, c'est vrai que les fromageries ont arrêté quand que On a pu avoir, dans ce temps-là, c'était Madeleine, je pense. On a pu avoir des contrats que notre lait était ramassé, puis il s'emmenait ça ici à Saint-Boniface. Après ça, après, c'est que presque tout le monde y a pris des contrats. Ensuite, c'est là que les fromageries ont été obligés d'arrêter. Oui, bien ensuite, ils ont continué. Il y avait des places qui ont gardé des plus grosses fromageries, comme à Grandtal, puis, comment ça s'appelle, Bothwell, Landmark. Fait que là, il y en a quelques-uns qui ont continué avec ces fromageries-là, mais la plupart, il y avait des contrats.
Ça veut dire aussi que le transport, qui fournissait le transport, les compagnies laitières?
Non, c'était la messagerie, les messageries de... La messagerie locale qui transportait le... Moi-même, j'ai eu pendant quelques années la messagerie d'Arburn. Et je transportais du... Ben, dans ce temps-là, c'était en bidon. Aujourd'hui, ça devait changer.
Alors, parlons un petit peu de ce travail de messager que vous avez fait. Est-ce que la compagnie avait un nom?
Ben, ça s'appelle Madeleine. Oh, moi, ma compagnie, dans la messagerie Pierre. Moi, je transportais aussi le. Non, je transportais le lait à la fromagerie de Grandtal. Ensuite, je transportais des animaux. J'emmenais des animaux ici en ville. Puis j'emmenais toutes sortes de choses pour les magasins. Puis le collège, il y avait le collège de Taverne aussi dans ce temps-là, la maison Saint-Joseph. Fait que j'emmenais toutes sortes de choses pour eux autres. Je faisais de la transportation.
Pour combien d'années?
3 ans. J'avais acheté ça pour faire de l'argent, m'acheter une ferme, puis ça n'a pas bien marché. Je m'en suis sorti, mais c'est... Ouais, c'était pour aller plus vite, pour je pensais de faire beaucoup d'argent avec ça, pour m'acheter une ferme un peu plus vite, puis ça n'a pas marché nécessairement de cette manière-là.
Et là, c'est dans quelles années, la messagerie?
60-63.
Quel genre de camion vous aviez?
J'ai commencé avec un Dodge, mais je ne l'aimais pas, parce que j'ai changé avec un Chevrolet. Là, j'ai continué avec ça, avec un bon Chevrolet. Ben oui, mais c'était toutes des boîtes fermées, naturellement. Il fallait que ça soit fermé, parce qu'on ramenait de la viande, on ramenait des épiceries, des boîtes, toutes sortes de... pour les magasins, puis pour surtout la maison Saint-Joseph, là, qui avait beaucoup de pensionnaires. Alors, on emmenait de la viande, on emmenait toutes sortes de choses qu'on ramassait dans les grosses maisons de la ville ici.
Alors, revenons encore à la ferme paternelle. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de l'eau? Est-ce que vous aviez de l'eau? Est-ce que l'eau ne posait pas de problème?
Alors, chez nous, dans notre coin, on était chanceux, nous avions des puits artésiens qui coulaient toute l'année, sans arrêt. Puis il y avait une forte pression aussi. On pouvait l'avoir amené dans la maison sans pompe ni rien, dans les tables. C'est la même chose, elle fournissait tous les animaux sans pompe ni rien, juste par la pression naturelle du puits. On était chanceux, nous. Ah ouais, elle coulait constamment, on était obligé de...
Ouais. Est-ce que vous aviez bien conscience de la chance?
Ah, bien sûr. Comparativement à ceux qui restaient, mettons, un peu plus dans la prairie, là, les autres étaient obligés de transporter leur eau. Bien, c'est entendu qu'on remerciait le bon Dieu pour ça. C'est ce qu'on avait chez nous. Ah oui, puis chez nous, tu vois, on a tous des bonnes dents par rapport à ça. Même mon frère le plus vieux a 90 ans, mais on a toutes nos dents encore. Parce qu'ils disent que c'était l'eau dans ce temps-là. Mais comme je disais au début, dans ce temps-là, c'est nos parents. C'était eux qui étaient là. C'était les pères, hein? La mère n'avait pas tellement de choses à dire, quoique il y en aurait eu beaucoup à dire, mais c'était les maîtres à bord, hein? Si tu avais le malheur de leur donner des conseils, ils ne prenaient jamais ça, parce que c'était les autres, ils savaient ce qui se passait. Tu ne pouvais pas rien faire. Ça fait que c'est pour ça que c'était difficile pour les enfants de travailler avec leur père. Hein? Parce qu'on ne pouvait pas placer un mot, il fallait faire l'ouvrage puis se fermer la gueule. Ça, c'est très difficile. Parce qu'on avait une belle ferme, on aurait pu faire mieux. Des choses que mes frères et moi proposaient à mon père, mais jamais il a voulu nous écouter, nous traiter d'ignorants. Puis c'est ça qui était le pire. Bon, on aime, comme moi, j'aimais la ferme, j'étais là jusqu'en dernier. Parce que j'aimais tellement ça, je revenais pareil. Je revenais aider pour rien, tu sais. Parce que j'aimais la ferme, j'aimais mes parents aussi. Mais j'aimais ma mère, peut-être un peu plus que mon père, parce que mon père était tellement têtu, puis orgueilleux, il voulait jamais comprendre. On aurait pu, s'il aurait voulu écouter ces garçons un peu, là, on aurait pu être millionnaires, nous autres. Alors, parce qu'on avait ce qu'il fallait pour... Mais les autres, ils avaient leur vieille manière, puis ils ne voulaient pas s'en débarrasser.
Alors, parlons un peu de la vieille manière par rapport aux conseils que vous auriez aimé donner.
Mais disons que nous avions construit une grande étable, on avait tout ce qu'il fallait. Juste un exemple, quand on avait nos contrats de lait, mes frères et moi, on aurait voulu commencer avec des animaux enregistrés. Puis, en faire une bonne ligne, puis ensuite aussi avec le lait qui n'est pas juste le. On aurait pu faire de l'argent, pas juste avec le lait qu'ils nous donnaient, mais en vendant aussi des produits de ces vaches-là, comme il y en a plusieurs qui faisaient ça aussi, puis c'était bon. Puis nous, on avait les gars pour le faire. Ben, quand on a dit ça à mon père, il nous a traités de fous, puis de rêveurs, puis ça fait qu'on ne l'a jamais fait. Hein. Ça ne servait à rien, puis il y a plusieurs autres choses aussi qu'on voulait qu'ils changent, puis il n'a jamais voulu.
Par exemple? Dans la culture?
Ben oui, dans la culture aussi. Tu sais, en ayant plus d'animaux, nous, on voulait avoir plus d'animaux. Puis dans ce temps-là, ils commençaient ils fatiguaient un peu les vieux. Ils voulaient faire plus de céréales. Mais nous, si on voulait avoir plus d'animaux, ça voulait dire moins de céréales, puis plus de foin. Tu sais, plus de... Puis ce qui était bon, nous, c'est quand tu sèmes du trèfle ou de la luzerne, tu prépares ton terrain ensuite pour des bonnes années, puis ils ne comprenaient pas ça, eux autres. Il y avait juste leur manière. Les autres, ils faisaient du garé d'été dans ce temps-là. Ils appelaient ça du garé d'été. Alors, je pense qu'il y a un autre mot pour ça, là.
Ben, les labours d'été aussi, on dit.
Non, alors, les labours d'été, il y avait du garé d'été. Mais ça, c'était une perte, ça, parce que si tu avais des animaux, tu ne perdais pas. Hey, je parle des 80 acres, 100 acres, qui ne produisaient pas, là. Mais si tu faisais du foin ou du trèfle ou de la luzerne ou du mille, mais là, tu perdais pas d'années, là. Ça fait que c'est... Ajoute ces années-là par 20, par 30. Ça fait que ça, on parle de pas mal d'argent, là. Mais seulement les autres, ces vieux-là, ils voulaient pas du tout. C'est eux autres qui étaient le patron.
Hein? Alors, vous mettez le pluriel. Donc, il n'y avait pas que votre père, c'était un petit peu général, à votre avis?
Ah, ouais, tous les voisins, c'était pareil. Ils s'entendaient bien là-dessus, hein? Ils ne voulaient pas déroger. On a été élevés comme ça, on va mourir comme ça. Il n'était pas question de les changer. Il n'était pas question de les changer. Tout le monde, on subissait les mêmes choses. Puis on était trop bêtes pour partir de chez nous, faire notre vie nous-mêmes, on revenait quand même. Parce que l'hiver, vois-tu, l'hiver, on n'avait pas d'ouvrage, on faisait tout l'ouvrage surtout l'été. Alors l'hiver, on était obligé de prendre notre petite poche là, sur notre dos et aller gagner de l'argent de l'hiver. On revenait au printemps, on donnait notre argent. On travaillait encore pour rien. Si on a fait ça pendant des années, c'est complètement ridicule. C'est beau d'être un bon garçon, mais vraiment, quand je pense à ça, là, moi j'aurais dû partir à 16 ans puis pas revenir. Mais dans ce temps-là, c'était la mentalité aussi. On aimait. Ben, c'est parce qu'on aimait la ferme. Parce qu'il y a de mes frères qui sont partis et qui ne sont pas revenus. Je ne les blâme pas non plus. Aujourd'hui, je comprends pourquoi.
Alors, l'hiver, il n'y a pas d'ouvrage sur la ferme. Qu'est-ce qui reste quand même comme ouvrage l'hiver?
Non, mais il y avait toujours des animaux de ça, mais ça en prenait juste un, avec mon père. Puis il y a celui qui a eu la ferme, à Paris-Étienne, comme j'ai dit au début. Mais lui, il était marié, mais il fallait qu'il reste là avec sa femme. C'est nous les plus jeunes, il voulait partir.
Alors, quel genre d'ouvrage vous faisiez l'hiver?
Ce qu'on pouvait. On était au chantier plusieurs hivers, mais les chantiers, ça ne payait pas. Moi, j'étais plusieurs hivers dans le coin de Pine Falls. Ouais. J'ai travaillé deux hivers pour les oblats, parce qu'il y avait un gros troupeau là-bas. Je me suis occupé de leur troupeau pendant deux hivers. Le printemps, on revenait chez nous. Ensuite, un autre hiver, j'ai conduit une messagerie. Un autre hiver, j'ai conduit un taxi. Il fallait faire quelque chose pour gagner sa croûte. Mais au printemps, là, on avait toujours une lettre de ma mère. Elle dit, mon père, ton père commence à être de mauvaise humeur. Il y a hâte, tu reviennes. Ah ben, nous autres, on revenait. On était niaiseux, mais c'était comme ça.
Mais alors, qu'est-ce qui vous payait, votre père?
Il ne payait rien. Même l'argent qu'on faisait l'hiver, c'était pour nous acheter. Même on en donnait à maman, maman en cachait à quelque part. Quand on avait besoin d'un 5 $ ou un 10 $, on demandait à notre mère. On s'achetait notre linge nous-mêmes. Mon père ne donnait rien. Absolument rien.
Mais est-ce qu'il avait beaucoup d'argent en banque, le père?
Il y en avait à un moment donné, mais ensuite, mais il s'est aperçu qu'après que les temps changeaient, puis il a fait des mauvaises affaires. Mon père n'était pas un administrateur. Ma mère, elle l'était, mais elle n'avait pas le droit au chapitre. Si ma mère aurait pu administrer, on n'aurait pas été dans cette situation-là. Puis là, mon père, il a fait tellement de mauvaises affaires qu'en dernier, il était obligé de vendre à mon frère pour sortir des...
Mais quel genre de mauvaises affaires par rapport à la ferme?
Ben oui, mais c'est parce qu'il était têtu aussi. Juste un exemple. On a semé pendant plusieurs années de l'orge à bière. Une année, il avait envoyé deux pleins wagons. Ça, c'était... Les wagons-là, ils étaient où? C'est-tu à Toronto? Je ne me rappelle plus où, là. Puis, on lui avait dit de vendre. Non, on va les garder à l'entrepôt là-bas. Puis, ce temps-là, il payait l'entreposage de ça. Puis, il a vendu même pas à moitié prix. Au printemps, il est obligé de vendre. Tu sais, des choses comme ça. Dans ce temps-là,
Autrement dit, il ne comprenait pas vraiment la mécanique du marché.
Non, puis il voulait pas, ça. Il avait juste une idée dans la tête, puis il s'y tenait à ça. Pendant cette année-là, il avait perdu. Ensuite, il y a eu d'autres choses, comme, je ne me répète pas trop, là, puis ça ne prend pas de temps de dégringoler, parfois, hein. Mm-hmm. Mais c'était le malheur de tous ces vieux-là. Il y avait toutes des belles fermes, puis il y a plusieurs de leurs garçons qui auraient été bons sur la ferme, mais on ne leur donnait pas de chance, fait que on se décourageait, on partait. Hein.
Vous disiez que votre mère n'avait pas voix au chapitre, mais j'imagine qu'avec 9 enfants, votre mère était très occupée.
Ah ben oui, ma mère, à ce temps-là, elle faisait tout notre linge, quand on était plus jeune. Elle était couturière. On faisait tout, hein. Des canages, hein. Des conserves, on en faisait des mille, ça prenait ça. Ben oui, on faisait le beurre, le pain, on faisait tout. Ben, c'est vrai qu'on était plusieurs, on aidait, on lui aidait beaucoup aussi, hein. Ensuite, elle était sage-femme aussi. Ah oui, elle a aidé beaucoup de femmes venir au monde, elle. Oui.
De qui elle avait appris?
Comme ça. De sa mère, oui, sa mère. Dans ce temps-là, il envoyait des choses, il y avait des grosses familles. Hein.
Sa mère s'appelait comment?
Marie, hein? C'était Marie Corriveau. Marie Corriveau. Oui, avec 9 enfants, c'est pas tout. Ensuite, ben, c'était elle qui était organiste aussi, c'était une musicienne, ma mère. C'est pour ça qu'on a toujours chanté un peu dans la famille. Hein. Ma mère nous a montré toutes ces choses-là. Oui. Ben, ensuite, dans les veillées, c'est toujours elle qui était prise. Toute la veillée à piocher sur ce... Ben, dans ce temps-là, il y avait moins de piano que d'harmonium. Des harmoniums à pédales. Ouais. Elle faisait beaucoup de couture. Ouais. Puis dans les expositions, tout ça, il y avait toujours des expositions qu'elle emmenait. Ben, quand il y a des prix... Elle mettait toujours de l'argent de côté, parce que deux fois, en temps de la dépression, là, papa était mal pris. Ça y prend une fois 300 pièces pour sortir du... pour payer les intérêts, je ne me rappelle plus, pour la ferme. Puis maman, elle avait caché ça. Maman l'a été trouvée, elle avait un gros pot, là, puis elle avait l'argent. Deux fois, elle avait une autre fois, pareil, c'était un montant de 300-400 pièces encore. Deux fois qu'elle a sauvé mon père comme ça, puis mon père, il allait dû comprendre que ma mère était meilleure que lui pour administrer. Parce qu'elle prévoyait ces choses-là.
Mais donc, il y avait des dettes, c'était pas sa ferme vraiment, il y avait une hypothèque, c'est ça?
Ah, bien sûr, ben, quand il achetait sa ferme, comme tout le monde dans ce temps-là, il y avait des emprunts du gouvernement. Puis ensuite, quand il y a eu la dépression, après ça, le gouvernement il a dit, si vous donnez tant d'argent, ça va baisser votre montant, tout ça. Puis c'est là que maman est devenue avec son argent. Une autre fois, c'était d'autres choses qui étaient prises, puis elle avait encore l'argent encore. Elle a ramassé ça avec toutes ses poules dans ce temps-là, elle vendait des œufs, elle vendait des légumes, elle avait toujours quelque chose en perspective, justement, pour les mauvais jours. Elle faisait de la couture aussi pour les autres. Elle coupait les cheveux aussi, elle faisait tout, hein, à ce temps-là, là.
Alors, vous avez parlé des prix dans des expositions, des expositions agricoles?
Oui, des expositions. Mais chez nous, c'était fort, hein? Alors, t'emmenais de la nourriture, t'emmenais ton meilleur coq, ta meilleure poule, ton veau, ton cochon. Ah, bien sûr. Puis maman, elle avait le don de gagner des prix un peu sur tout. Puis ça faisait, c'était pas vrai. C'était une pièce ici, 50 sous là. Mais quand même, dans ce temps-là, c'était beaucoup.
Et où se tenait l'exposition agricole?
Saint-Pierre, oui. Ah, il y avait tout un... Ah, il y avait même des courses, il y avait tout dans ce temps-là. Là. Puis c'est nous autres, c'est les jeunes. Mais c'était notre chance d'aller rencontrer d'autres jeunes, puis surtout des filles. Hein. Mais alors, c'est tout un concours de circonstances qu'il y a bien des choses qui auraient pu avoir changé si nous, les jeunes... Là, quand même, on travaillait fort, là. On travaillait du lever du soleil au coucher, hein. Puis tous les jours pour rien, puis on n'était même pas écouté. Puis on travaillait fort, parce qu'on aimait ça.
Ben, il n'était même pas question de vous donner quelque chose?
Des fois, on lui demandait une pièce à la fin de semaine, puis des fois, il la donnait pas, mais non. Ben, il avait toujours, en tout cas. Non, c'est ce qui est malheureux, parce que moi, je sais pas, on est tous dans le même... Les garçons de mon âge, qu'on aurait voulu être fermier, parce qu'on aimait ça, mais seulement on a été obligé, c'est pour ça que moi j'ai été obligé d'attendre. Ensuite, quand je me suis marié et tout ça, mais il n'était pas question, parce qu'on n'avait pas d'argent. Ensuite, j'ai été obligé d'attendre 13 ans pour réaliser mon rêve, être fermier, parce que j'y croyais à ça, moi. J'y croyais, ça.
Alors, racontez un peu comment vous vous êtes pris pour arriver à votre ferme.
Mais c'est qu'on avait une propriété à Rebun, j'avais mis une maison neuve, j'avais mis quelques bâtiments aussi. J'avais 18 acres, là, dans le fond de Rebun, du long de la rivière. J'avais développé ça un peu, j'avais fait de la clôture. C'était une belle propriété, mais de ce temps-là, ça se vendait pas cher. Puis là, ben, c'était tout payé. Là, on a vendu cette propriété-là 11 000 $. Puis on a racheté Saint-Malo pour 11 000 $. fait qu'il ne restait pas grand-chose à jouer avec, hein. Mais quand même, là, on a fallu travailler fort. Très fort.
Alors, décrivez un peu la ferme que vous prenez en main en 1970 à Saint-Malo.
Bon, c'était une terre en roche. Il y avait... à peu près 50 acres d'ouvert. Mais il y avait des tas de roches un peu partout là-dessus. S'il y avait une maison, une vieille maison, en partie en log, avec un ajout là aussi, c'était pas grand. Mais vu qu'on laissait une maison neuve, nous autres, avec la salle de bain et tout ça, il a fallu que je fasse un allonge après l'autre maison pour mettre une chambre de bain. Quand tu arrives là avec 6 enfants, surtout, on a, ça prenait. Ça fait que là, on a dépensé beaucoup d'argent pour mettre une salle de bain, emmener l'eau de la maison, pour l'eau chaude, tout ça. Ça fait qu'on a dépensé beaucoup d'argent. Puis là, il nous restait moins d'argent pour acheter des vaches à lait, parce que c'est ça qu'on faisait. Hein. C'est avec ça qu'on voulait faire. C'est là qu'on a perdu quelques années, parce qu'on n'avait pas les fonds nécessaires. Puis on ne pouvait pas emprunter parce qu'on n'était pas solvable. Dans ce temps-là, ils ne prennent pas l'expérience de quelqu'un ou ses références, ni rien. Ben non, si tu veux emprunter 10 000, ben, faut te donner 50 000 pour...
Alors, vous aviez un peu quand même établi un budget, vous saviez combien de vaches il vous fallait, comment vous avez pensé ça?
Bien, on le savait, parce que, entre-temps, il fallait gagner notre vie. Mais moi, j'ai continué à faire de la charpente. Je faisais de la charpente à part de faire mon train-train là-bas. Ensuite, au travers de ça, à l'hiver, je conduisais un autobus scolaire partiellement. Ça aidait un peu. Ensuite, Carmen a fait de la suppléance. Quand j'étais chez nous, on gardait parce qu'on avait un jeune bébé. Carmen a fait de la suppléance. Ces choses-là, ça aide. Hein?
Et quelle vache aviez-vous?
Encore là, j'ai pas fait une erreur directement. J'ai acheté un troupeau moins cher. Moins cher pour aller. Je calculais. Je comptais sur mon expérience de ça pour parfaire. C'était pas un bon troupeau, parce que j'avais pas d'argent, hein, je l'ai eu à bon marché. C'est peut-être là que j'ai fait l'erreur, peut-être j'aurais été mieux de l'acheter un peu moins, puis qu'il soit meilleur, mais encore là, c'est difficile à...
Est-ce que c'était des Holstein aussi? Ou?
Il y avait des Holstein surtout, mais il y avait un mélange là aussi. Il y avait un mélange. Mais quoi qu'ensuite, j'ai eu beaucoup d'Holstein, mais j'ai mélangé un peu avec un peu de Jersey pour avoir un peu plus de gras. Parce que moi, j'avais toujours un bon... On t'a payé sur la livre de gras. Hein. Fait que moi, j'ai toujours été meilleur que mes voisins pour ça, parce que j'avais des animaux mélangés. Hein. Ils donnaient moins de lait, mais la livre de gras... Hein. Ben oui, ensuite, oui. Ensuite, oui, j'ai acheté en quelle année? Un peu, là. Après que j'avais tout arrangé, mon étable, j'ai agrandi mon étable, tout ça, parce que, vu qu'on n'a pas d'argent, moi, je trouvais des bâtisses, je les faisais, je démolissais les bâtisses, je me servais ce bois-là, usagé, pour faire tous mes bâtiments. Là, tu sauvais de l'argent, mais quand même, ça me donnait le temps pour le faire, même en noirceur. Ah oui, ensuite j'ai fait c'était un parloir, hein. Moi j'avais un parloir de traite. Les animaux étaient libres. Oui, ensuite, plusieurs années après, j'ai acheté un autre troupeau avec un contrat. Parce que moi, mon contrat, il était pas assez haut, hein. J'ai tout obligé d'acheter un contrat pour avoir un troupeau de vaches pour avoir le contrat. Après ça, ben ça s'est bien marché. On ne ferait pas encore une autre chose, parce que là, ils ont coupé les contrats à un moment donné, puis là, j'avais trop de vaches. J'étais obligé de me débarrasser des bonnes vaches, parce que j'en avais trop. Mais on s'est replacé quand même après ça. C'était tout... C'est là, ben moi, ce qui est arrivé, c'est que j'avais pas de terrain arable, là. J'avais juste 50 acres avec des roches partout. J'ai été obligé d'acheter tout mon grain, puis tout mon foin. Mais malgré tout, après que j'ai eu mon contrat, tout ça, puis les vaches, ça marchait bien, parce qu'il en restait assez quand même pour continuer à vivre. Toujours pour s'agrandir. Ensuite, j'ai commencé à ouvrir du terrain. T'sais. Quand j'arrivais là, comme j'ai dit, il y avait 50 acres d'ouvert, mais quand j'ai parti, il y avait 225 d'ouvert. Carré, pas de roches. Les roches étaient toutes dans l'état. Mais là, on a travaillé fort là-dessus, parce qu'on n'avait pas les machineries pour, mais on le faisait avec les garçons. On en faisait toujours un petit peu chaque année. Ah ouais, vas-y les gars, madame aussi, puis la fille aussi, pour ramasser des roches. Ouais. Bon, ensuite, mais là, ça y allait bien, on a construit une grosse maison. Ben, on l'a tout fait nous-mêmes. Puis on a, c'est pour dire 13 ans après, on a travaillé fort. Puis ça a pris, ça a montré aux garçons ce que c'était que la ferme. Puis les garçons, ils ont appris à travailler, parce qu'aujourd'hui, tous les garçons, ils peuvent bâtir leur propre maison, ils peuvent faire la plomberie, l'électricité, puis toute la patente. Ils ont appris ça sur la ferme. Puis ça, c'est ça que je voulais que nos enfants aient la chance de voir. Hein. Puis ils pourraient faire la ferme aussi, tout ça. Ben, c'était un rêve. Mais on a travaillé pour. On a travaillé pour. Puis on était tout ensemble, toute la famille, puis c'est ça que je voulais.
Et puis, rentrons un peu dans les détails spécifiques. Donc, ce troupeau, il y avait combien de vaches? Une fois que vous avez eu le deuxième troupeau en 73, que vous avez acheté pour avoir le contrat de lait, et quel équipement est-ce que vous aviez pour les traire?
Non, j'avais le meilleur équipement, c'était tout automatique. J'avais les trailleuses, ce qui allait dans la citerne. J'avais juste trois trailleuses, par exemple, parce que mais quand même, on faisait toujours la traite de 40-45 vaches à l'année, après ça. C'était ça qui était la limite pour le contrat que j'avais, 40 à 45 vaches à l'année.
Et vous étiez capable donc d'acheter toute la nourriture, hein? Vous ne pouviez pas produire de la nourriture pour les bêtes?
Alors, à chaque année, à mesure que j'ouvrais du terrain, là, j'en avais un peu. Maintenant, non, j'étais obligé d'acheter presque tout jusqu'en dernier. Les deux dernières années, là, un peu moins, parce que là, j'ai commencé à ouvrir du terrain. Mais ça m'a envoyé, puis malgré tout... Hein? Ouais, juste la dernière année, les deux dernières années. Ouais. Mais malgré tout, ça payait assez pour faire vivre une famille. Ensuite, on a un autre enfant après ça. Ça fait que là, c'est une famille de 7.
Est-ce que vous prépariez un budget annuellement?
C'était tout dans ma tête. Puis là, non, on en parlait. Mais, non, c'était... Parce que moi, je...
Et de qui vous achetiez la nourriture pour les animaux?
Ah, n'importe quel fermier autour qui en avait. Mais des fois, on louait aussi. On louait un terrain de luzerne ou de trèfle. Ou... Puis là, c'est moi-même qui le coupais, puis l'emballais.
Quel équipement aviez-vous?
Ah, juste pour le foin. Hein? Juste pour faire le foin. L'emballeuse, la coupeuse, le râteau... Bon, les dernières années, ensuite, j'ai eu une petite combine, là, parce que j'avais une petite combine, mais juste les dernières années, ça, parce que je commençais à en avoir assez chez nous pour le faire moi-même.
Un tracteur?
Ah oui, j'en avais trois.
Quelle marque?
C'est les John Deere. Excepté, j'avais un tracteur à chenille, un bulldozer, qui était international. Ouais. J'avais deux John Deere. Non, j'avais trois. J'avais le petit pour faucher, j'avais le gros avec la pelle mécanique. Ensuite, j'ai eu le gros. Ah oui, on avait le tracteur à jardin aussi. Le tracteur à jardin, là, pour bêcher, puis nettoyer les tables aussi. On s'en servait avec... je nettoyais les tables avec mon petit tracteur John Deere, des 10 forces, là, avec une pelle en avant. Là. C'est avec ça que je nettoyais mon étable. Bon, c'est l'été, on s'en servait pour le jardin.
Qu'est-ce que vous faisiez avec le fumier?
Ah, on l'étendait sur le terrain, à mesure, à tous les jours. On aide. Ah oui, c'était bien important. Ça paraissait à chaque année où j'avais épandu du fumier que ça poussait pas mal plus fort. Rien pour dire, il faut toujours... C'est ça que le principe de l'agriculture, hein? Remettre à la terre ce que tu prends d'eux.
Vous aviez un jardin?
Oh oui, un gros jardin. Hein? 2 acres, 3 acres. Oui, on avait des fraises, des framboises, on avait un peu de tout. Hein? Oui, on faisait un grand jardin.
Des conserves?
Ah oui, des conserves. 500-600 par année.
On faisait, à ce moment-là, on commençait aussi à congeler les légumes. Hein? On avait un grand congélateur et puis une bonne partie des légumes étaient congelés. parce qu'on était assurés qu'ils allaient être bien gardés et être bien frais. Parce que nous, on n'avait pas de cave dans notre maison. On avait une maison sur le sol. Alors, on n'avait pas un endroit pour garder des conserves comme telles. On en faisait un peu, mais pas des grandes quantités comme il se faisait, disons, 10-15 ans avant. C'était le moment où je pense que la plupart des familles qui avaient des grands potagers ont changé à la congélation pour conserver leurs légumes.
Et donc, on parle dans quelles années, pour être un peu précis?
Les années 70, disons, les années 70, puis 80, en continuant les années 80.
Donc, à partir de la grande transition pour la façon de conserver les produits du jardin, arrive de la fin des 60 au début des années 70.
Oui, je dirais que par la fin des années 70, les conserves, on faisait certains genres de conserves, des marinades, et puis des gelées, des choses comme ça. Mais pour ce qui était de garder les autres légumes, exemple les pois, les fèves, le maïs, c'était congelé. Pas mal. Bon. Les petits fruits aussi, les fraises, les framboises, on congelait ça.
Et puis là, évidemment, à cette époque-là, il n'est plus question, est-ce que vous faisiez de la couture aussi? Est-ce que c'est un autre monde? Ou bien, parlez-nous un peu de la dimension ménagère.
Ben, pour ce qui est de la couture, moi, j'ai hérité probablement des talents de ma mère, de mon arrière, de ma grand-mère. C'était une tradition familiale. Alors, je faisais tous les vêtements jusqu'à temps qu'on quitte la ferme. J'ai toujours fait tous les vêtements. J'ai même fait des complets pour Pierre. Il se donnait le département d'agriculture donnait des cours de couture. Alors, on pouvait se spécialiser, disons, dans le vêtement tailleur ou un peu dans... On pouvait faire un peu de tout. Puis comme les tissus ont beaucoup changé, les tissus sont venus beaucoup plus pratiques. Eh bien, c'était un plaisir. Mais les premières années, on faisait des vêtements dans du vieux. On défaisait des vêtements. Exemple, on aurait défait un habit d'homme qui était un tissu en lainage, puis on aurait fait un petit manteau puis un petit pantalon pour un enfant. C'est de cette manière-là. Alors, les premières années que moi j'ai fait de la couture, c'était généralement dans des tissus usagés que je refaisais des choses pour mes enfants. Alors, vraiment, j'ai jamais acheté de vêtements jusqu'à temps que j'aille à l'université dans les années 80 et puis que j'aie plus le temps de faire de la couture.
Alors, vous avez joué évidemment un rôle clé dans le rêve de votre mari, de Pierre, pour avoir la ferme. Est-ce que vous pourriez un peu élaborer sur le genre de support pratique que vous avez apporté?
Ben, je pense que la nourriture était quand même un sujet clé quand on est une grande famille. Alors, de ce côté-là, il faut savoir se débrouiller avec ce que nous avons à la ferme et de ne pas dépenser trop des grands montants. On n'achetait pas des plats préparés ou des... On n'achetait rien qui était préparé. Tout était fait du début. On achetait des choses comme du beurre. On achetait du pain, mais on en faisait aussi. Et pour ce qui est des produits laitiers, pour ce qui est de la viande, pour ce qui est des légumes, ben, on produisait tout nous-mêmes dans les années 70.
Est-ce que vous faisiez boucherie aussi?
Oui, on faisait boucherie. Certaines années, on a élevé des volailles, spécialement pour avoir de la nourriture. Et si on en avait, disons, certaines années, on a élevé jusqu'à 200, alors on n'avait pas besoin de tout ça pour nous. On les vendait, ça faisait des revenus. On a aussi fait l'expérience de petits canards et puis un peu de tout là, dans la basse-cour. Et puis, c'était pour la nourriture, puis pour avoir de la variété. Côté nourriture, ben, disons que si on regarde du côté biscuits, gâteaux, toutes ces choses-là que les enfants avaient besoin pour apporter dans leur goûter, eh bien, c'était tout fait à la maison. Il n'y avait absolument rien qui était acheté.
Il fallait quand même acheter la farine, j'imagine?
Oui, il fallait acheter la farine, le sucre, certains produits de base qu'il fallait acheter, mais on n'aurait jamais été acheter un paquet de biscuits comme on fait aujourd'hui, par exemple. Et pour ce qui est de l'entretien de la maison, par exemple, ben tout le monde y mettait du sien. Le samedi, chacun avait sa tâche. Et puis, c'est comme ça qu'on arrivait, parce qu'on avait la chance quand même à Saint-Malo d'avoir de la bonne eau pour boire et pour la maison. Par contre, des fois, si on utilisait trop, on en manquait. C'était un puits de surface qui était très bon, mais il fallait faire attention. Alors, il ne fallait pas gaspiller l'eau, ce qu'on ne devrait pas faire plus aujourd'hui. Hein. Je pense qu'on était très écologique. On ne gaspillait rien, on utilisait tout. Tous les papiers qu'on avait étaient réutilisés pour quelque chose. Soit que les enfants, les publicités, les lettres qu'on recevait, ben, on se servait du côté opposé. Les enfants s'en servaient pour écrire, pour dessiner. Jamais qu'on aurait été acheté une tablette de papier pour donner aux enfants, pour s'amuser. Tout ce qu'on avait, on le réutilisait jusqu'à temps qu'il soit plus utilisable, quoi.
Alors, est-ce que c'était une attitude qui était facile à avoir, ou bien est-ce que vous vous sentiez un peu par rapport à l'environnement de la société de consommation, est-ce que vous vous sentiez un peu pauvre?
Pas vraiment, parce que on a été élevé comme ça. Parce que chez nous, ben peut-être qu'on était, on avait moins. Moi, j'ai grandi avec moins. Alors non, on sentait qu'on avait tout ce qu'il nous fallait. On ne se sentait pas vraiment dépourvu. Puis je pense pas que les enfants, s'ils se comparaient aux autres enfants, se sentaient des enfants pauvres, disons. Je pense qu'ils avaient le sentiment qu'ils avaient tout ce qu'ils avaient besoin. Ben, tu sais, il y avait le tricot, on tricotait des tucs, des mitaines, des bas. On achetait seulement les chaussures. Et puis, c'était un peu comme ça dans toutes les familles à ce moment-là. Alors,
Et donc, j'imagine que vous avez participé aussi aux travaux à l'extérieur, quand il s'agissait de défricher, de préparer le terrain?
Ben, disons que ça, moins, là. Je m'occupais beaucoup du potager, puis de la cour. Puis d'embellir avec des fleurs, parce que c'est un environnement, un bel environnement, c'est toujours plaisant. C'est pas nécessairement que ça coûte plus cher, ça demande peut-être plus d'énergie puis de travail, mais c'est pas une affaire d'argent. Alors, ça, c'est des choses qu'on avait, du temps, on en avait. Quand il y avait une corvée pour aller ramasser des roches dans le champ, ben, des fois, on partait toute la famille, et puis on cueillait des roches, on les mettait dans la pelle du tracteur. Et puis, c'était dur, mais...
Où est-ce que les roches étaient mises?
Ben, c'est ça, elles étaient mises à l'extérieur du champ, quoi. À un endroit où ils n'étaient plus dans le champ. Il y en avait des mulons, des piles et des piles.
J'avais fait un passage exprès pour ça. J'avais fait un passage exprès parce qu'il y en avait tellement. C'est un passage assez large. J'avais besoin de ce passage-là pour que les vaches aillent au pâturage, un peu plus loin, j'avais besoin d'un passage. C'est là que je mettais mes roches. Puis les animaux, ça ne les empêchait pas de passer parce que mon chose était large. Quand tu demandais à Carmen, non, moi, ça, quand on a démarré sur la ferme, parce que moi, j'ai toujours été un gars assez fier, assez indépendant, parce qu'on avait déjà 6 enfants. Moi, j'ai dit à ma femme, toi, tu t'occupes de la maison, puis que les enfants soient propres, qu'ils mangent comme il faut, puis toi aussi, tu restes belle, puis moi, je m'arrange dans mon coin. Puis, OK. Quelquefois, elle est venue conduire le tracteur. Quand une fois, je me montre, ça, c'est un incident, ça. Elle avait venu venir d'y manger, venir goûter. Puis mon jeune, qui avait seulement quoi, 8 ans, qui conduisait le tracteur, il se sentait pas bien. Fait que j'ai dit, bon, OK, Carmen, tu peux conduire le tracteur. Le petit va se reposer dans ce temps-là. Là. Mais seulement, elle n'était pas habituée. Hein, puis c'était un tracteur que si, avec une cloche à la main, qu'on appelait, là, avec un bras d'embrayage. Puis ensuite, ben, une fois, elle a bien parti. Puis là, j'ai été obligé de crier d'arrêter. Mais quand elle a tiré le bras d'embrayage, elle a tenu trop longtemps. Puis moi, j'ai parti. J'étais tombé sur l'emballeur. Je me suis cassé 2 côtes. Ah oui, ça, c'était un choix. Mais non. Ensuite, alors, elle est revenue quelques temps. Je dis, non, elle ne venait pas souvent m'aider une fois pour. Non, pour délivrer un veau, là. Elle n'avait jamais vu une vache donner un veau. Puis justement, c'était un gros qui s'en venait. Puis là, ma femme avait venu m'aider à tirer dessus un peu. Non, c'est rare que je demandais de. Parce qu'elle avait tellement à faire à la maison avec les enfants. Hein. Ouais. Bien, elle servait des fois pour le camion, des fois, elle était obligée de venir chamener quelque chose dans le champ ou quelque chose comme ça. Non, autrement, on avait chacun notre coin.
Pour le vélage, est-ce que vous le faisiez seul ou bien est-ce qu'il y avait de l'aide?
Non, je le faisais seul. Je le faisais seul. Toujours seul. Ben, oui, ensuite, je me suis acheté un petit machin, là, un come-along qui appelle, là, quelque chose que tu tires. Ça marche sur un petit palan. C'est une espèce de genre palan, là, que. Ensuite, ça sauvait bien du trouble. Hein. Ça venait à chaque fois. Ça, même les enfants, ils ont appris à s'en servir. Puis une personne seule, avec ça, il n'y a pas de problème.
Alors, vous n'étiez jamais trop inquiet au moment du vélage? Vous n'avez pas perdu de bêtes?
Ah oui. On a perdu beaucoup. Ben, en vélant, quelques-unes, c'est assez rare. Non, c'est l'affaire qui. Des fois, les animaux, ils allaient dans le bois. On avait tellement grand de bois qu'ils allaient se cacher. Puis, avant d'y retrouver, des fois, on perdait les deux. Des fois, on perdait seulement le veau. Mais souvent, oui, ça arrivait souvent. Ah oui, dans 13 ans, je suis certain que j'ai perdu peut-être 50 000 $ de vache. Ah oui, ça va vite. Hein? Ben, ensuite, il y a eu des maladies aussi, des maladies des pieds, là. Si on ne les trouvait pas, on ne va pas les piquer, hein. Ah oui, dans 13 ans, ça va vite. Ouais, ensuite, on a noyé quelques-uns. Oui. On avait un petit lac, là. Le printemps, j'avais lâché mes taureuils, comme on dit. Puis la glace, ils sont arrivés sur le lac, là. Puis ils ont rentré dans la glace avant que je m'en aperçoive. Il y en a deux qui sont noyés. Donc, ça, il y en a eu plusieurs après ça, là. Ce que je voulais dire, vous voyez, toute cette misère qu'on a eue pour rien, si on aurait pu emprunter des gouvernements. Parce que moi, chaque année, j'allais avoir les deux paliers de gouvernement. Mais vu que j'étais par moi-même, j'ai dit, bon, vous emmenez des références à pleine brouette, ils ne comprenaient pas ça. Ils prêtaient seulement aux fils à papa. Tu sais? Puis tous ces fils à papa-là, là, des années après, ils ont tout perdu. Si on aurait, si nous aurions prêté ce qu'on avait besoin au début, là, sur une marge de 20 ans, ben non, les fois où ce que je voulais emprunter, il fallait que j'aille à la caisse ou à la banque, mais là, tu payais plus d'intérêt. On ne pouvait pas, parce qu'on était seul, on ne pouvait pas emprunter les paliers du gouvernement. Ce qui est comique, c'est qu'après combien d'années, là, après que ça... Hein? À peine, non, avant ça, 8 ans. Ben oui, les gens du gouvernement sont venus chez nous finalement. Puis là, j'avais plus besoin des autres. Ah là, ils étaient prêts à m'emprunter, là, à me prêter 200 000 $. Mais vous êtes malade, parce que là, j'avais ma maison neuve, tous mes bâtiments étaient à tout frais peinturés, j'avais une belle. On a monté une belle, un beau cheptel. Ça, c'était juste avec nos propres moyens. Puis là, ah oui, il était prêt à me prêter 200 000 pièces. J'ai dit, écoutez, les gars, là, il n'y a personne qui va me dire ce que j'ai besoin d'emprunter, parce que c'est moi qui vais payer, c'est pas vous autres. Puis là, j'ai ri de leur gueule un peu, là. Ils ont parti la queue entre les jambes, parce que moi, je n'avais pas besoin, parce que là, je pouvais avoir ce que je voulais de ma caisse ou de la banque, parce que j'avais fait mes preuves. Hein.
Alors, est-ce que vous pouvez encore m'expliquer pourquoi vous avez décidé d'arrêter en 1983?
Mais je pense que je l'ai dit un peu plus tôt. C'est parce que mes garçons, moi, ils n'ont pas voulu continuer avec moi parce qu'ils étaient un peu allergiques.
Hein?
Très. Très allergiques. Ils ont décidé qu'il était mieux d'aller à l'université puis continuer par eux-mêmes. Puis ils m'ont dit, bon, vous avez un beau rêve, mais nous, on ne peut pas embarquer. Puis moi-même, j'avais des problèmes. Je commençais à avoir des... Parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai eu des pleurésies pendant 10 ans, moi. À chaque année, là, à un moment donné, là, je sentais se venir une pleurésie, puis j'étais obligé de me tranquilliser pour quelques jours, mais des fois prendre des remèdes. Sur...
Une fois à l'hôpital.
Parce que j'avais eu quelque chose de grave, c'est peut-être, en tout cas, c'est, que, c'est pour ça qu'en 1983, vu que les enfants, il y avait cinq de partis, il en restait deux jeunes, mais les jeunes étaient trop jeunes encore. Il y en a un qui avait 12 ans, puis l'autre, il avait 7 ans. Ça fait que Carmen et moi, on a dit, bien écoute, là, les voisins, là, ils sont à veille de mourir, puis ils sont morts, là, pas longtemps après ça. Il y en a deux qui sont morts, deux frères. Ensuite, il y en a eu deux autres après ça. Ça fait qu'on a dit, la vie est trop courte, parce que moi, ça fait qu'on a décidé d'abandonner. Le prix était bon, dans ce temps-là, à vendre, pour vendre, puis on a vendu.
Alors, les voisins sont morts de quoi?
Mais ça. Ils sont morts parce qu'ils travaillaient toujours dans une étable renfermée avec toute la poussière. Puis les
pesticides, ils arrosaient. Quand on rentre un troupeau d'animaux dans l'étable à l'heure de la traite, on doit passer un pesticide pour les mouches. Et puis, après avoir respiré ça pendant trop d'années, ben, il se rendait malade.
Il y en avait dans le grain aussi, beaucoup
et
dans
ensuite,
le grain.
Ensuite, dans le grain aussi. Tous les pesticides qu'on arrose les champs avec, ben, quand on amène ce grain-là dans la moulée, là, cette moulée-là, elle n'est pas saine à respirer.
Et, ben, ça sent surtout dans le foin. Le foin, il coupait, il l'emballait un peu trop. Trop humide. C'est ça qui faisait du vert de gris dans sa...
La moisissure. La moisissure, elle peut être mortelle pour quelqu'un qui respire ça trop souvent et trop longtemps.
Déjà, à ce temps-là, j'avais 53 ans. Donc là, on a décidé, ben, la vie est trop courte. Si on veut vivre quelques années encore.
Là. Et vous avez pu la vendre sans problème?
Ah non, sans problème.
À qui?
Un monsieur d'Angleterre, un monsieur Jones. Frédéric Jones, ouais, un Anglais.
Il est toujours là. Et lui et son épouse sont toujours là. Moi, j'avais une petite anecdote que j'aurais aimé ajouter. Quand on parlait des travaux ou ce qui se passait sur la ferme, pendant l'été, pendant tout le mois de juillet, c'était la cueillette des petits fruits. On commençait par cueillir les poires sauvages, les Saskatoons. Et puis ensuite, il y avait les cerises sauvages. Et aussi, il y avait les pimbinas. C'était des petits fruits qu'on utilisait pour faire la gelée. C'est ça qu'on mangeait tout l'hiver avec pour notre petit déjeuner. Alors, on n'achetait pas de gelée en conserve du magasin non plus.